du jour avec le Père Willem.
L'amour jusqu'au bout. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 15, verset 42, le soir déjà venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire l'avant-sabbat, vient Joseph d'Arimathie, un éminent conseiller. Lui aussi était dans l'attente du royaume de Dieu. Il ose entrer chez Pilate et demande le corps de Jésus. C'est la veille de la fête de la grande libération, le passage de l'esclavage à la liberté. Voici un membre éminent du Sanhédrin, l'instance de pouvoir qui a condamné Jésus. Et Pierre nous dit qu'il était aussi dans l'attente du royaume de Dieu, un veilleur. Il a sûrement été touché par Jésus, soit il n'a pas osé dire qu'il n'était pas d'accord lors du procès de Jésus, probablement par peur des autres, soit il l'a dit sans être entendu, ni pouvoir empêcher sa condamnation. Maintenant que Jésus est mort, il agit. Il prend le risque, oui, le risque de retourner chez Pilate. Alors que ce sont les siens qui lui ont forcé la main. Pilate s'étonne que Jésus soit déjà mort. Il appelle à lui le centurion et l'interroge s'il est bien mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il octroie le cadavre à Joseph. Pilate continue de s'étonner à propos de Jésus. Il a de la peine à croire Joseph quand il lui dit que Jésus est déjà mort. Peut-être s'imaginait-il un Jésus plus fort. Normalement, les crucifiés mettent plus longtemps à mourir. Et puis, pourquoi ce changement de position d'un membre du Grand Conseil? Se fait-il encore manipuler? Serait-ce encore un coup du Sanhédrin qui veut en terminer avant la fête? Pilate s'étonne qu'il soit déjà mort. Cela fait penser à ces gens à qui on annonce la mort d'un malade qu'ils n'ont pas accompagné. Il est déjà mort? Pilate avait-il passé une bonne journée, bu et mangé, mené ses affaires de puissant? Dans tous les cas, le temps n'a pas eu le même poids pour lui que ces 6 longues heures sur la croix. Ce « déjà » révèle cruellement le manque de proximité avec la personne qui souffre. Pilate interroge le centurion. Que se sont-ils dit? Quelque chose est-il en train de se transmettre de l'expérience du centurion, celui-là même qui s'est exclamé « Pour de vrai, cet homme était fils de Dieu. » En tout cas, Pilate décide de son plein gré cette fois ce qu'il va faire de Jésus. Il octroie le cadavre à Joseph. Il s'agit bien d'un cadavre. Pas de doute là-dessus. Jésus est bien mort. Et Joseph, membre du Sanhédrin, et Pilate sont cette fois sur la même longueur d'onde, ouverture. Joseph achète un drap. Il le descend. L'enveloppe du drap et le dépose dans une sépulture taillée dans le roc. Puis il roule une pierre contre la porte du sépulcre. Marie, la Magdaléenne, et Marie, celle de Josette, regardaient où il était mis. Joseph fait tout ce qu'il faut pour que Jésus ait une sépulture digne. Façon de nous montrer que le Sanhédrin n'est pas que tout rayé. Façon de nous montrer le début d'un retournement en son sein, peut-être. Certains, au minimum, Joseph, ont été profondément touchés. La manière dont Jésus a vécu son procès, son exécution et sa mort a déclenché une énergie nouvelle en lui. Il ose ce qu'il n'avait pas osé auparavant. Quel contraste avec les disciples qui ont fui et ne viennent même pas réclamer le corps de leur maître, sans doute trop marqué par l'échec et toujours sous l'emprise de la peur. Quant aux femmes, elles continuent de regarder. Et que regardent-elles? Où il était mis. Elles ne veulent pas perdre de vue le lieu où se trouve Jésus. Elles veillent comme si quelque chose en elles murmurait que la vie, celle qu'elles ont portée, ne pouvait pas disparaître, s'arrêter définitivement. Et Jésus. Revenons un instant dans le regard de Pierre. Il a entreaperçu de petits signes d'un début de retournement, d'une ouverture. Mais malgré cela, c'est la nuit du deuil. Il nous décrit les actions de Joseph froidement, mais avec moult détails, comme s'il disait tout ce qu'il voyait sans état d'âme. Jésus n'est plus qu'un cadavre, descendu de la croix, enveloppé dans un linceul et enfermé dans un tombeau dans le roc. Immobilisé, enfermé, séparé du reste de l'humanité. Mort. Maintenant, Marc et Pierre nous ont tout dit en détail, laissant un espace vacant. Le sabbat passé, il va s'écouler la nuit du vendredi au samedi, toute la journée du samedi et la nuit du samedi au dimanche. Deux nuits et un jour sans qu'aucun renseignement ne nous soit communiqué. C'est le vide. Les journées sans Dieu. L'Église nous dit que Jésus est descendu aux enfers durant ces jours-là. Alors, quel sens cela a-t-il? Pour l'homme, l'enfer, c'est être coupé de Dieu. C'est aussi le plus bas de notre réalité humaine. Pour le juif, c'est le Sheol, c'est-à-dire la question. Et pour Dieu, serait-ce être coupé de l'homme? Nous le croyons. Les enfers, c'est la non-existence, la non-relation. Eh bien oui, Jésus est descendu aux enfers. Et Dieu, Père et Esprit Saint, avec lui. Dieu a été rejeté, mis à mort et au tombeau. Oui, par l'humanité. Même ceux qui avaient cru devaient en ce moment utiliser l'imparfait comme le centurion. Cet homme-là était fils de Dieu, était. Pour eux, en cet instant, cela appartient malheureusement au passé. Pour l'homme, c'est le temps du deuil, de la dépression, du vide. Pour Dieu, c'est le temps du recul, de l'attente, où il a accepté d'être coupé de l'humanité. Cela ne rejoint-il pas un des sens du sabbat, celui où Dieu se retire pour donner à l'homme d'exister? Pensons au septième jour de la création. Ici, ce n'est pas n'importe quel sabbat. Il s'agit de la fête de la Pâque, jour où les Juifs commémorent les préparatifs et le départ de la grande libération. Alors, voilà le mystère. Il s'agit que les hommes se préparent et décident de partir en toute liberté. il s'agit que les hommes s'engagent librement dans leur propre libération. Il s'agit que les disciples reconnaissent eux-mêmes Jésus ressuscité en toute liberté. Oh, énorme délivrance de Dieu qui ne s'impose pas à notre liberté.